RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart pour l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur quand c'était la guerre. Aujourd'hui, je vais vous amener à Champion, à la rencontre de Marcel Marlier. Alors Marcel Marlier, on ne parle pas du papa de la célèbre Martine qui est décédée en 2011, hein, le dessinateur. Il porte le même nom et figurez-vous, c'est assez original, sa fille s'appelle Martine aussi. Mais c'est donc un autre Marcel Marlier qui habite Champion, qui est bien en chair et en os. Il a 87 ans aujourd'hui. Pour vous situer un petit peu, c'est Chaussée de Louvain, juste après l'autoroute, hein, vous voyez, quand on continue. Et donc c'est là où il habitait déjà au moment de la guerre avec ses parents. Et vous allez voir, c'est un monsieur qui a beaucoup d'attachement pour son papa et qui était assez ému quand il en parlait. C'est un assez beau témoignage. Et si vous aussi vous souhaitez témoigner, eh bien c'est toujours possible. Pour le moment, la récolte de témoignages à domicile est suspendue en raison de la crise sanitaire qui reprend malheureusement. Mais vous pouvez toujours nous contacter et soit on prendra rendez-vous quand tout cela sera terminé, ou bien alors on peut faire ça aussi par téléphone, comme on l'a fait la semaine dernière avec Madame Odette Salfi. Mais ne vous inquiétez pas, les émissions continuent parce qu'on a pas mal d'enregistrements d'avance. Normalement, on est bon jusqu'en février. Alors, si vous souhaitez nous contacter, ben, plusieurs possibilités sur le site internet www.namuranguerre.be, par mail à l'adresse info@namurinc.be, par téléphone 0474 114 909, 0474 114 909, ou par courrier à ASBL Namur INC, rue Montcrabeau 6 à 5000 Namur. On attend vos témoignages et tout de suite, on écoute celui de Marcel Marlier, direction Champion.
J'étais ici à la maison à côté, c'était mes parents. Et à la guerre, quand elle s'est déclarée, mon père, quand je parle de mon père, ça me fait beaucoup d'émotion. Il a décidé d'évacuer en France. Et son père venait d'être opéré d'une hernie. Ça fait qu'il a transporté son père sur un vélo. Ils sont partis à pied, au train, jusque Mouchon, dans le Gers. C'est à 80 km de l'Espagne. On a passé par Rouen et là, on a eu une chance, c'est qu'on a été hébergé à Rouen après toutes les péripéties. En partant déjà ici à Templou, il y a eu alerte, on a dû se réfugier dans une cave là-bas de Préveil, tout près du cimetière de Templou. Il y a eu une mitraillade d'avion. Et quand nous sommes sortis, je vois au bord du mur du cimetière, je vois un militaire appuyé sur son mitraillette, comme ça, je demande à ma mère, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il dort, elle me dit, il avait été tué. Alors on a pris des trains, et c'était pas des trains de voyageurs, hein, c'était des trains à bestiaux. Hein. On a eu des trains à wagons découverts et fermés. Et ce qui est crevant, c'est que j'avais 9 ans. Ça m'a marqué tellement fort, je n'en ai pas ouvert du tout de la guerre. Hein. Ça m'a tellement marqué fort que j'ai tout en mémoire. J'ai même la photo en mémoire. Et dans les wagons découverts, quand il y avait alerte, les trains s'arrêtaient en dehors des gares. Hein. Et les femmes avec leurs parapluies dans le wagon pour le mitraillage. Après qu'on réfléchit que j'étais con. Hein. Et à Rouen, on était hébergés là. Et on devait partir le lendemain matin pour l'Angleterre en bateau. Et là, quand nous sommes arrivés pour prendre le bateau, il y a un détachement militaire qui est arrivé et il a pris notre place. Ça ne leur a pas réussi parce qu'ils ont été bombardés, ils ont été coulés. Ça nous a sauvés. Alors, nous avons continué notre péripétie, notre périple de voyage, et nous sommes arrivés à Mouchon, dans le Gers. Et là, on a été hébergés dans un petit côte, là, un genre de remise que les personnes avaient aménagé pour les réfugiés. On était avec, j'étais avec mes deux sœurs, ma mère et mon père. On a logé là sur des matelas de paille. Et 3 mois. Et mon père a travaillé dans une ferme là-bas. Et nous autres, on allait à l'école à Mouchon. Et Quand nous sommes revenus de Mouchamp pour revenir en Belgique, ils ont fait une halte à Bruxelles. On a été hébergés dans une grande salle en ville de Bruxelles. Tous les réfugiés, il y avait des réfugiés un peu de partout, avant de rentrer ici à Namur et Champion. Quand je suis rentré à Champion avec mes parents, j'ai constaté le saccage que les militaires belges avaient fait, le pillage des militaires belges, ici. Ils avaient foutu tout sur la table du living. Ils avaient déménagé les meubles, tout était sur la table. Abominable. Ça, c'était notre rentrée ici. Et puis on a pris notre vie normale, si on peut appeler la vie normale. Parce que je reviens de nouveau sur mon père, c'est un ami pour en parler maintenant. Parce que quand je commence à parler de mon père, je ne sais pas, couper mon émotion tellement. Mon père, ça a été un héros pour moi. Il m'a tout d'abord sauvé la vie que j'avais 3 mois. Et puis après, il nous a tellement sortis de toutes les merdes. Alors, il a travaillé comme un dingue, mon père. Il travaillait chez Carrier-Bois, plein de Saint-Nicolas. Avant d'aller chez les frères Jamar, Signerie aussi. Mais chez Carlier, dans le fond de la Signerie, il y avait, tout près du chemin de fer, il y avait un grand mur. Et quand il y avait alerte, tout le monde allait se foutre là-bas. Pas nous, hein, parce que je ne travaillais pas là-bas, moi, j'étais jeune, quand même. Et un beau jour, alerte, là, mon père, hop, dans le fond là-bas. Il y a 2 Allemands qui viennent se coucher à côté de lui. Oh, monsieur, ça allait, oh, monsieur, c'est pour ta gueule. C'est 2 avions anglais, des doubles culs, les Lightning, qui étaient venus bombarder et foutre le pont de Luxembourg dans l'eau. Il y avait une mitrailleuse au début du pont, une mitrailleuse à la fin du pont. Ils sont arrivés, ils ont zigouillé le type de la mitrailleuse du pont, les 2 mitrailleuses du pont, boum, boum, clope le pont dans l'eau. Mon père s'est relevé, ils sont sortis voir. Il y avait déjà des barques sur la Meuse, des pêcheurs d'Amérois qui ramassaient les poissons. C'est que la déflagration des poissons, là, ils portaient.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne, ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Maintenant qu'il est loin d'ici, En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Je me rappellerai toujours, à ce moment-là, mon père rentrant un jour. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je vois la situation, j'entends la situation. C'est malheureux, mais j'ai toujours ça chez moi. Je n'ai pas oublié rien, mais rien. C'est comme si j'y étais. Ce n'est pas du bluff, parce que moi, je n'ai pas de faux fuyant. Je dis ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et entendu. Hein. Et mon père, en rentrant chez nous, il dit, eh ben, il parlait beaucoup avec mon père. Si on vient jamais bombarder Namur, il y aura énormément de tués. Parce que de chez Calais, passait par la rue Saint-Nicolas pour remonter par la chaussée de Louvain, revenir chez nous. Il y avait alerte qui était. Moi, je me suis précipité avec mon vélo pour rentrer le plus vite possible pour quitter Namur. Eh bien, eux, ils étaient entablés sur le trottoir rue Saint-Nicolas, ils jouaient aux cartes. Ils s'en foutaient. Et il y a eu beaucoup d'alertes, il n'y avait rien d'eux. Mais cette fois-là, ils se sont trompés. Ils ont bombardé 4000 mètres d'altitude, c'est qu'on a les Américains. Et tout est tombé sur la rue Saint-Nicolas, place d'armes. Je vois encore la place d'armes, il y avait un garage sur le coin de la place d'armes, un gros garage. Ou par après, j'ai su que le type qui était là, c'était le beau-père de mon patron quand j'ai eu 18 ans, faut pas demander. Rasé. La plaine Saint-Nicolas, fini. 340 des morts, en mur. Et le jour de ce bombardement-là, ma mère était hospitalisée, parce que ma mère, elle était hospitalisée 9 fois. D'ailleurs, mon père voyait que ma mère était partie à la clinique, quand il rentrait, la valise était dans le couloir, et ça y est, maman est partie, elle s'est fait opérer. Elle était sur la table d'opération, quand on a venu bombarder. Et le type qui s'occupait de la morgue à Saint-Camille était devant les carreaux, entre les carreaux et la table d'opération, comme ça, pour s'il y avait des vitres cassées. Le chirurgien, en précipitation, il avait terminé l'opération de ma mère, et c'est l'aide-assistant qui a terminé le travail. Et la sœur de Saint-Camille a repris ma mère, quand ça a été terminé, il l'a remis dans son lit, lui a dit, dans la salle commune, ceux qui savent encore descendre de leur lit et se mettre en dessous, ils le font quand il y a l'air. Les autres, la grâce de Dieu. Voilà. Non, il n'y a pas eu de carreau qui a explosé à Saint-Camille. Mais il était là, le gars, hein. Ça a été aussi un type qui était très bien, ça. Et ça, c'était une anecdote pendant le bombardement de la guerre de Namur. Ma mère était en train d'être opérée. Et là, en allant voir, en rendant visite à ma mère, l'après-midi, ça, je ne vais pas dire que ça gueulait, ça gémissait dans les couloirs de Saint-Camille, sur les dégrabats des lits, tout ça, de ces vieux, des blessés, des morts. On est descendu le jour, l'après-midi, voir ma mère, c'est tout allait bien, hein. J'ai vu des types qui leur manquaient des oreilles, leur manquaient le nez. C'est affreux à voir. Les gémissements partout dans les couloirs, c'était abominable. Et ça, ça a été le bombardement de la ville de Namur. Mon père avait raison parce qu'il avait dit, il y a beaucoup de morts, c'est vrai, parce qu'ils ont été pris, ils s'en foutaient, il n'y a jamais rien. Voilà, ils ont raté le coup, et voilà. Ça, c'était le bombardement de la ville de Namur. Alors, nous sommes rentrés ici, et... On a commencé un petit train. Mon père, tout en travaillant comme magasinier chez Carlier, il avait un petit morceau de terre cultivé rue de Fernelmont et au Sarrasin, ici derrière. Il a nourri toute la famille de ma mère qui habitait Bruxelles pendant toute la guerre. Par après, sur le moment, on s'en rend pas compte, mais par après, je me suis dit, avec le film La traversée de Paris, les sœurs de ma mère venaient chercher des morceaux de cochon ici chez nous pour retourner à Bruxelles. Il les a soignés tous. Non, je vous dis, mon père,
ça a été un bon homme, extraordinaire. Il a tellement fait pour moi et pour la famille.
Il y avait une sœur 14 mois plus jeune et une autre 5 ans plus vieille que moi. Sur le moment de l'exode, on a eu des anecdotes aussi, surtout, mais c'est... On a appris la tactique militaire en exode, nous autres, hein. Parce que c'était pas... La planète n'était pas comme ceci, hein. C'était encore des rues encaissées en deux talus. Avec des arbres et tout, des prairies, beaucoup de prairies, c'était pas construit comme maintenant. Et c'était à pied, à cheval et en voiture, comme on dit. Et on était souvent à pied, nous autres. Et alors, quand on entendait des avions arriver, il y avait des militaires qui étaient sur les rues avec nous, hein, des Français surtout, arrivés en France. Et quand les avions arrivaient de là, on devait se taper sur le talus par là, pas de l'autre côté, pour qu'ils ne nous voient pas. Hein. Donc on a appris la technique militaire. Hein. Et ma sœur, elle se tapait dans le fossé, et les gens qui étaient à côté d'elle, elle était dans une chose d'ortie. Donc elle voulait se relever, pouf, elle lui poussait dans le sortie.
Ah oui. Et alors,
une autre anecdote aussi, c'est à Mouchamp, on était installé, hein, parce qu'on y est resté 3 mois. Et j'allais à la pêche avec un copain d'Henri qui avait fait l'exode avec nous, Plumers, des gens de Dinan, Plumers. Et là, il avait tombé dans l'eau, dans la petite rivière. C'est un soldat français qui l'avait repêché. Et en rentrant, c'était le moment de vendant qu'on transvasait le vin dans les barriques. Mm-hmm. Mais des barriques énormes, elles étaient plus hautes que nos pièces ici, les barriques, dans les hangars. Et avant de pouvoir mettre le vin, il est nettoyé. On avait assisté à ça. Il y avait une petite porte dans le fond de la barrique. Il ouvrait la porte, il mettait un chandelier allumé pour voir s'il y avait de l'oxygène. Hein. Avant d'y rentrer, pour aller gratter la lie. Et alors, quand c'était fait, il remplissait la barrique de vin. Et il y avait une planche dans la barrique, il y avait des verres. Ils nous ont foutu une douffe. À 10 ans, tu comprends bien, une douffe terrible. Ils étaient malades comme des chiens. C'est tout le moment gay de l'exode. Nous, c'était une maison particulière, mais... C'est en France, la maison n'a jamais été tellement entretenue. Hein. Et en 40, c'était encore pire. Hein. C'était de la terre, il n'y avait pas de pavement. Hein. Et la patronne de la maison, là, tous les jours, au matin, elle se mettait au-dessus d'une touque de l'eau, elle secouait ça pour les puces. Ouais, j'avais vu tout ça. Et les saucissons, les jambons pendaient au plafond. Ah, on était bien soignés. Hein. Et alors... Nous autres, on allait à l'école. Et encore une autre petite anecdote, en allant à l'école, quand t'es jeune, l'enfant, tu cours, t'es plein d'énergie. Il fallait descendre toute une pelouse, la prairie derrière la maison, pour aller à l'école qui était dans le fond, dans la rue. Et en descendant encore, je sens que je marche sur quelque chose, je fais pas attention, je pars à l'école. Là. Quand je suis rentré, je me suis fait engueuler par ma mère et la patronne. Là. J'avais tué un petit canard. Ah, on n'avait pas besoin de se trouver là. On ne regardait pas encore, moi, dans les grandes airs. Oui. Et le seul amusement qu'on avait, c'était aux osselets. C'était comme des osselets de couleur. Mm-hmm. On les faisait, je ne sais plus comment ça allait déjà.
Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Comme tout finira bien. Il faut profiter du jour qui vient. Quand le jour paraît, j'ouvre les volets pour voir le soleil dans le grand ciel bleu. Tant mieux s'il est là, mais s'il n'y est pas, je fais mon soleil même quand il pleut. J'ai le cœur léger, quelle que soit la saison, quand je chante. Qui pour 3 fois rien n'ont plus le moral. Je leur prends la main, je leur dis c'est rien. Tant que ton cœur bat, ça n'est pas si mal. Pense que ce monde a été fait pour toi. Maintenant, chante avec moi. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain, ça ira.
qu'une chose que je ne sais, je ne saurais pas donner, c'est les noms des partenaires qu'on a passés. Ça, je n'ai pas fait attention, tout d'abord parce qu'on n'était pas ensemble, deuxièmement parce que je ne les ai pas retenus. Mais je vois où puis passer. Hein. J'ai vu des bêtes tuées dans les pâtures, j'ai vu ce soldat-là tué de près du cimetière. Ah, j'ai vu. Mais je ne me rendais pas compte de ce qui était étendu là. On me disait il dormait. Ah, mais il dormait, hein. Pour moi, il dormait. Et j'ai risqué ma vie aussi avec mon père, parce qu'on était en train ici quand on est rentré. Il y avait des petits combats d'avions, c'était des coucous qu'on appelait ça, des petits avions. Et ils se bagarraient en l'air, et ils mitraillaient. Il y avait des scrapnels, il y avait un hangar ici à côté. Il y avait des scrapnels qui tombaient par des, hein. Une ou deux scrapnels qui sont tombés sur le toit d'un hangar, on disait là sur le dos, nous autres, qu'on regardait comme deux cons, les deux avions qui se battaient. On aurait pu être tués aussi là. Et quand on est rentré ici, mon père a fait il avait un gros marronnier dans le fond de la pelouse là-bas, parce que ça va jusqu'à l'autoroute, hein, c'est chez moi. Il avait un gros marronnier et il a fait un L, une tranchée, une grande tranchée, recouverte avec la paille et de la terre et des bâches, pour nous protéger en cas de bombardement ici. Mais ici, il n'y avait rien à bombarder, mais il y avait le dépôt de munitions dans le fond des communes ici à vol d'oiseau à 2 km, qui a sauté d'ailleurs. Et où mon père a été chercher des pans de cochon pour nous autres ici, alors qu'on n'avait pas besoin. Parce que mon père avait prévu tout, il avait une petite culture, il élevait des cochons, il y avait des vaches, il avait tout. Non, il faut dire, le rôle de père a été assumé à 1000% par le mien. Chose qui ne se fait plus tellement maintenant, mais là, il a assumé son rôle de père à 100 000%. On n'a rien manqué. Personne de la famille n'a manqué de rien. On n'a souffert de rien de la guerre, sauf que c'était pas gay avec les Allemands qui étaient là. Mais c'était très bien. Il nous a invité beaucoup de choses. Mais dans nos murs, c'était pas tellement génial. Il a été fort détruit, nos murs, en 1940, ce bombardement-là. Et ils avaient appelé ça, quand il supposait venir bombarder la gare de Namur, il avait appelé la gare de Namur l'araignée à cinq pattes. Ça, c'était le code que la résistance et les Américains avaient donné à Namur. Donc, quand on entendait au poste l'araignée à cinq pattes, on venait rendre visite à l'araignée à cinq pattes, on savait que ça risquait d'avoir un bombardement. Mais je vous dis, les gens s'en foutaient comme de leur première culotte. Hein. Ils étaient là, ils jouaient aux cartes, ils s'en foutaient. Ben non, combien de fois qu'ils ont entendu qu'il n'y a jamais rien d'eux. Mais cette fois-là, ils ont payé cher. Pas de la faute des Américains, c'est de la faute des Namurois. Parce qu'ils ne se protégeaient plus, ils s'en foutaient. Alerte ou pas alerte, ils jouaient aux cartes. La vraie que ça lasse, hein, quand on prévient de quelque chose, il n'y a rien qui se passe. Ouais. C'est comme maintenant, hein, avec le COVID-19, hein. Et les jeunes, ouais. Hein. Ils ont tellement marre qu'on leur rabat les oreilles avec ça qu'ils s'en foutent et ils ne se protègent plus, ils foutent la merde aux autres. Voilà. Ça, je ne suis pas d'accord, hein. Parce que c'est pas parce que je suis ancien militaire et que j'ai juré fidélité au roi, aux lois du peuple belge. Donc je dois assumer ce qu'on nous commande, pas être un mouton, mais assumer quand c'est la réalité. Et ça, c'est dommage que maintenant ils ne le font plus. Parce que dans mon temps, cher monsieur, dans les patelins, le maire, donc le bourgmestre, le curé et les policiers, les agents de police, il ne fallait pas bâcher sur leurs pieds. Hein. Maintenant, les attaques. Ce n'est pas une évolution normale. Hein. Mais quand vous parlez à un jeune, il est toujours d'accord, mais il s'en fout qu'elle est sortie.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qui a été la Seconde Guerre mondiale ?
Regardez, c'est surtout ce que leurs parents ont fait pour eux, les risques qu'ils ont pris pour eux, ça faut qu'ils fassent bien attention, et voir comment ils ont dû traverser cette période de guerre pour les protéger.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
En tant que militaire de carrière, je voudrais que, comme on dit habituellement, pour ne plus que ça se reproduire, parce que les guerres, je trouve ça atroce, c'est con. Parce qu'il n'y a jamais les gros, les grands responsables, vous avez compté combien il y a eu de généraux tués à la guerre et combien il y a eu de soldats tués et de civils, qui eux n'en peuvent rien, les civils, d'une guerre. C'est toujours créé, occasionné par des gros bonnets. Donc, ce qu'il faudrait que ça n'arrive plus jamais, c'est les guerres. Les éviter et qu'ils soient un tout peu plus respectueux d'autrui, les jeunes. Parce que c'est de là vient la guerre, hein.
Et voilà donc pour ce beau témoignage de Marcel Marlier, homonyme du papa de Martine, mais qui habite Champion. C'est un témoignage assez émouvant, surtout lorsqu'il parlait de son papa. Et ben voilà, si vous aussi vous souhaitez témoigner, ben vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez nous contacter par plusieurs moyens, soit par internet, il y a un formulaire en ligne sur le site www.namuranguerre.be, par email à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909, ou par courrier ASBL Namur INC, rue Moncrabeau 6 à 5000 Namur. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à la semaine prochaine.